7h42 à Vaubinette, c'est la main verte.
France Inter. Le 6-9.
Et oui, je fais des rimes à la Baraton.
Mais c'est magnifique, c'est où j'étais hier, à Lannoy, c'était un village de Dordogne. La population, les gens que j'ai rencontrés, n'ont Dieu que pour vous.
Un menteur, vous m'avez dit qu'ils vous ont fait une ovation.
Non, mais...
Bonjour quand même, Alain.
C'est notre dernière, dites-moi.
Oui, alors, ville flatteur, on va quand même répondre aux questions des auditeurs. Oui. Marie a un hortensia grimpant qui est installé mi-ombre depuis plusieurs années. Alors, il a fait de belles feuilles, mais jamais aucune fleur. Quels seraient vos conseils pour obtenir une floraison ?
Alors, on résume, mi-ombre, ça correspond parfaitement à l'hortensia grimpant. Est-ce le froid ? Je doute. La plante étant originaire de Russie, il supporte des températures extrêmes jusqu'à moins 25 degrés. La plante a-t-elle été installée dans une terre peu calcaire ? Car ce n'est pas, je précise bien, ce n'est pas une plante de terre de bruyère, c'est certainement le cas. A-t-elle été taillée de manière abusive ? Je ne pense pas. Il n'y a donc aucune raison à ce qu'elle ne fleurisse pas. Il faut donc faire preuve d'un petit peu de patience. La plante a préféré développer les tiges, les feuilles, les racines et attendre le moment voulu pour venir offrir ses fleurs. Un peu de patience.
Ouais, là, ça fait quand même plusieurs années.
Eh ben oui, mais vous savez, vous avez des plantes capricieuses également. Mais il est vrai que les plantes, même demi-ombre, ont besoin d'un minimum de luminosité. Peut-être que nos amis confondent mi-ombre et obscurité. Là, c'est peut-être une piste à poursuivre.
Barbara, cette question, elle a un rosier qui présente des signes de maladie, mais alors elle ne sait pas laquelle. Elle dit que les feuilles ont des trous qui jaunissent, les feuilles aussi, et elles tombent en quelques jours.
Il y a la rouille du rosier qui fait des petites taches oranges, mais pas de trous. Les pucerons du rosier qui envahissent souvent les feuilles, mais pas de trous. Il y a la chlorose du rosier qui décolore les feuilles, mais pas de trous. Il y a l'oïdium, qu'on l'appelle également le blanc, qui couvre le feuillage d'un feutrage blanc, pas de trous. Il me reste, je pense, le marsoniaque qui, là, oui, effectivement, est une maladie cryptogamique qui noircit comme des petits pointillés la feuille et qui fait ensuite des trous. Je pense qu'il s'agit donc d'un marsonia. Que faire ? 1. Évacuer les feuilles tombées sur le sol. Cet hiver, ou plutôt cet automne, ramasser et bien nettoyer la base des rosiers et se souvenir que les rosiers ont besoin d'avoir de l'air. Ils ont besoin d'avoir du soleil. N'hésitez pas à couper les branches situées au milieu pour aérer le végétal et faire en sorte, écoutez bien cette poésie, que le soleil caresse l'intégralité de la ramure.
Vous êtes vraiment formidable, Alain. D'ailleurs, Alice vous trouve tellement formidable qu'elle a une question aussi pour vous. Oui. Elle dit, j'ai découvert la magnifique fritillaire ou fritillière impériale. Pourriez-vous nous en parler ?
On l'appelle également couronne impériale ou encore beaucoup plus jolie, et vous allez comprendre pourquoi, les larmes de Marie. C'est une fleur, un gros bulbe qui apparaît au printemps. La tige est rigide et ce sont des fleurs en couronne, souvent jaunes ou orangées, qui tombent vers le sol. Et la plante est assez spectaculaire. Et il y a une légende qui prétend que autrefois il y a
c'est comme la bignonne, non ?
Oui, imaginez des fleurs de bignonne, c'est beau votre comparaison, ça va permettre à ceux qui nous écoutent de bien sentir le végétal. Donc imaginez une guirlande de fleurs de bignonne disposées en cercle à l'extrémité d'une tige qui atteint 70-80 cm et des grandes feuilles rigides. Eh bien les fleurs se touchent, s'inclinent vers le sol. Il se dit que avant la crucifixion de Jésus-Christ, la plante fleurissait normalement, et elle fleurit à Pâques, toujours à Pâques, et que le jour où Jésus a été crucifié, elles ont continué à fleurir, et depuis, rongées par la honte, elles s'inclinent vers le sol en signe de respect. Avouez que c'est quand même une belle histoire. Petite précision sur les fritillaires, il se dit que le bulbe tiendrait à distance les mulots et les taupes, que l'odeur dégagée ferait fuir ces petites bestioles sous terre, indésirables pour les jardiniers. Alors, je vais vous faire part de mon expérience. Il y a longtemps, à Versailles, j'avais installé tout autour d'une pépinière des bulbes de fritillaire pour tenir à distance les taupes.
Résultat ?
Elles en rigolent encore.
Alain, alors c'est des questions de dames. Il y a beaucoup de dames qui vous posent des questions. J'ai un érable du Japon en pot dans une cour ombragée. Ah ben non, je dis moi. Et ses feuilles ont commencé à se dessécher. Est-ce qu'il y aurait un lien avec les grosses pluies des jours précédents ? Et puis j'espérais une nouvelle pousse de feuilles.
Non, je crois que c'est surtout l'inverse. Hein. L'érable du Japon est une plante qui n'aime pas trop les courants d'air, qui déteste. Elle pousse contrairement à l'hortensia grimpant dans la terre de bruyère. Donc attention. Ce qu'il faut, s'éveiller à ce que le sol soit toujours humide, mais jamais détrempé. Donc l'excès d'eau pour les érables du Japon et le manque d'eau ont les mêmes conséquences, à savoir dessèchement des feuilles et chute des feuilles. Je pense que quand on veut des érables du Japon, c'est un peu comme un animal. Si on veut un chien ou un chat, il faut se dire qu'il faut avoir le temps de s'en occuper, sinon on oublie. Il en est de même pour les érables du Japon.
Et dans une cour ombragée, c'est bien ça pour un érable?
Oui, mais là encore, Laetitia, ne confondons pas une cour ombragée et une cour obscure. Il faut qu'il y ait une belle luminosité. L'érable du Japon est un végétal caduc qui offre des teintes à l'automne spectaculaires. C'est l'une des plantes les plus belles qui soient. Le coût d'achat est relativement onéreux. Attention donc avant d'en faire l'acquisition. Mais il est vrai qu'un très bel érable du Japon est magnifique et convient parfaitement à une cour. Si telle était par exemple votre situation à vous, oui, vous pouvez avoir chez vous, sous vos fenêtres, vos yeux ébahis, de très beaux érables du Japon.
Edith pose cette question. Ma mère avait planté plusieurs rosiers de chez Meillant. Alors ça, moi, j'y connais rien, mais chez Meillant, vous m'expliquerez. 50 ans plus tard, l'un d'eux semble retourner à l'état sauvage avec des fleurs blanches et plates, des fleurs d'églantier, semble-t-il. Peut-on espérer retrouver les roses odoriférantes de son origine?
Peut-être. Meillant est l'un des plus grands rosieristes de France. Il y a Delbar, il y en a plein d'autres. Et effectivement, il peut arriver, c'est rare, mais il peut arriver qu'au bout d'un certain temps, le rosier semble retourner à l'état sauvage. J'en doute. Par contre, ce que je sais, c'est que quand vous avez chez vous un rosier extraordinaire qui dégage des senteurs inouïes, qui vous rappelle un grand-père, une mamie ou quelqu'un que vous aimiez profondément, il vous est possible, pour conserver cette plante, de faire des boutures. Le rosier se bouture très facilement et très bien. N'hésitez pas à le faire, car le bouturage, et on le sait trop peu, est la seule méthode totalement sûre pour reproduire un végétal avec toutes ses caractéristiques.
Dernière question, elle vient d'un homme, enfin. Kamel, des champignons poussent sur les branches de mon mirabellier. J'ai entendu qu'il fallait les retirer, gratter le bois mort et en dur de goudron de Norvège pour la cicatrisation. Est-ce correct? Vous avez 20 secondes.
Non, vous coupez la branche. Ça ne sert à rien de gratter, ça ne changera pas le problème. Le goudron ne réglera rien du tout. Dès l'instant qu'il y a sur du bois des champignons, c'est la fructification d'un réseau de mycélium dans le bois. Il faut donc couper la branche qui porte les champignons.
Ah, ok, Kamel, vous le savez maintenant.
Bah oui.
Très rapidement, Alain, un livre avant de se quitter.
Oui, vous arrivez de voir des plantes assez incroyables, vous faites quand vous les voyez, waouh. Non, ne dites pas le contraire. Eh bien, j'ai trouvé un ouvrage qui s'appelle 50 plantes et fait oua. C'est Serge Chal, qui a publié chez Larousse. C'est 50 idées de plantes dont les feuilles ont un graphisme hors du commun, des floraisons étonnantes. Ce sont des plantes, effectivement, waouh. 50 plantes et fait waouh. Serge Chal, chez Larousse.
Merci, Alain Baraton. Il est précis. À la semaine prochaine.